Dudes, you guys are gonna go back in time.
It must be some kind of
five,
hot tub time machine.
4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1.
Bonsoir à vous, il est 20h, bienvenue dans un numéro mensuel, nouveau numéro mensuel de Classics Time Machine. Au micro, comme à son habitude, chaque quatrième mercredi du mois, le Dr M, votre érudit de service. J'espère que vous passez un bel été et si vous en avez la chance, de bonnes vacances, en notre compagnie bien sûr. Il fait beau, il fait chaud, c'est l'été, tout le monde est dehors, les filles sont belles et les mecs essayent de l'être aussi. Et vous avez bien raison de nous écouter. Alors merci d'être là. Pour ce voyage radio-temporel de juillet, je vous emmène à bord de la Classics Time Machine faire un saut dans le temps et notre périple nous conduira en musique et en archives de juillet 1962 à juillet 1995. Nous passerons en Nouvelle-Zélande, en Ouganda, en Algérie et bien d'autres endroits ailleurs. Alors préparez-vous à remonter le temps et installez-vous confortablement car on part immédiatement en 1985.
Steven Spielberg presents Back to the Future, a Robert Zemeckis film. Marty leads an ordinary life.
No McFly ever amounted to anything in the history of Hill Valley.
Well, history is going to change.
And 1985 is not his year. But Dr. Brown is about to change all that.
Are you telling me you built a time machine out of a DeLorean?
He's sending Marty 30 years back in time. Now, he's trapped in the past.
This has got to be a dream.
About to meet
chocolate,
his future father. And he's making an impression on his mother.
It's an absolute dream.
Anything you do could have serious repercussions on future events.
Now, he's got to make his mother and father fall in love.
For crying out loud, I haven't even been born yet.
And only Dr. Brown can help him get back to the future.
Are you telling me that this sucker is nuclear?
Precisely.
Michael J. Fox.
Whoa, this is heavy.
Christopher Lloyd.
There's that word again, heavy. Why are things so heavy in the future? Is there a problem with the Earth's gravitational pull?
Back to the Future.
Et oui, lorsqu'on fait une émission sur le voyage temporel et qu'en plus on a grandi dans les années 80, on ne peut pas faire l'impasse sur la sortie le 3 juillet 1985 du film de Robert Zemeckis, le plus culte sur le sujet, Back to the Future, en français Retour vers le futur. Produit par Steven Spielberg, le film raconte l'histoire d'un jeune lycéen branché de 1985, Marty McFly, interprété par l'acteur américain Michael J. Fox, dans la petite ville fictive de Hill Valley en Californie. Le seul vrai souci de Marty, c'est que son père est un imbécile à la tête d'une famille dysfonctionnelle et n'a aucune prise sur son propre destin ni celui de sa famille. Marty est donc souvent chez son ami, le docteur Emmett Brown, incarné par Christopher Lloyd, un scientifique excentrique génial mais incompris de tous. Lorsque celui-ci lui demande de le rejoindre pour lui montrer sa toute dernière invention, une voiture DeLorean chromée et nucléaire qu'il a transformée en machine à voyager dans le temps, Marty se retrouve par erreur projeté 30 ans dans le passé, en novembre 1955. Tentant de survivre discrètement dans une époque qu'il ne connaît pas, il fait la rencontre de ses parents. Son père est un minable absolu et sa mère, jeune femme à la vertu légère, tombe amoureuse de son propre fils. Marty crée ainsi un paradoxe temporel dans lequel son père et sa mère ne se rencontrent pas. Il doit donc à tout prix faire en sorte que ses parents se rencontrent et tombent amoureux l'un de l'autre s'il veut exister. En même temps, il part à la recherche du jeune Doc Brown de 1955 qu'il doit convaincre de l'aider à retourner vers le futur avec les moyens de l'époque. Ce film, début d'une trilogie culte, est un carton immédiat et le succès est planétaire. Pur produit blockbuster hollywoodien, à renfort d'orchestration musicale haletante et une esthétique archi-spielbergienne, le film se laisse regarder avec plaisir, mêlant divertissement et suspense. Alors oui, je sais, ce film nous avait promis qu'en 2015, on surferait à ras du sol sur nos hoverboards, qu'on aurait des voitures volantes et des baskets à fermeture électronique, et ce fut la grosse déception de s'apercevoir que le futur, eh ben, c'était mieux avant. Mais malgré cela, il y a un vent d'optimisme et de coolitude qui souffle sur ce film comme on n'en voit plus aujourd'hui, lorsque notre futur à nous nous semble plus sombre et moins prometteur qu'il y a 30 ans. Alors pour nous replonger dans l'ambiance de 1985 et pour illustrer ce film, je suis bien obligé de vous passer l'immense tube issu de la bande originale de Back to the Future, le fameux The Power of Love par Huey Lewis and the News. Et oui, après tout, c'est l'été quoi, on peut se détendre un peu, non? Et commencer cette émission sur une note légère quand même. Alors fermez les yeux, vous avez une doudoune sans manches rouges sur une chemise à carreaux, des baskets Nike Cortez aux pieds, un slip Pierre Cardin et des bretelles, un skateboard sous le bras et une montre Casio qui fait bip quand on appuie sur les boutons. Bref, vous êtes en 1985 et vous êtes sur Classics Time Machine, nom de Zeus.
Bonjour. Raid éclair israélien en Ouganda. Un commando israélien venu à bord de trois gros avions libère les otages et l'équipage de l'Airbus d'Air France et les ramène en Israël où ils doivent arriver tout à l'heure à 9h.
C'est donc une véritable mission impossible qui a été réussie cette nuit par les commandos israéliens. Vous le savez sans doute depuis ce matin, un raid sans précédent a été tenté par les forces israéliennes sur l'aéroport d'Entebbe en Ouganda.
Cette opération d'une audace presque incroyable a semble-t-il été menée de bout en bout par les seuls Israéliens sans aucune consultation des autres gouvernements intéressés, par exemple le gouvernement français. Le président ougandais Idi Amin Dada a demandé la convocation immédiate du Conseil de sécurité des Nations Unies après l'opération du commando israélien sur l'aéroport d'Entebbe.
Dans la nuit du 3 au 4 juillet 1976, sur l'aéroport d'Entebbe à Kampala, en Ouganda, l'armée israélienne lance une opération militaire risquée pour faire libérer 106 otages israéliens. Quelques jours auparavant, le 27 juin 1976, un Airbus A300 décolle de Tel Aviv pour rejoindre Paris et fait une escale à Athènes. Quatre personnes, trois hommes et une femme, sortent alors des armes et des grenades cachées dans des grands sacs de bonbons et détournent l'avion vers la Libye, puis le font redécoller vers la capitale de l'Ouganda, Kampala. Ce sont deux membres allemands des révolutionnaires Zellen et deux membres du FPLP, le Front Patriotique pour la Libération de la Palestine. Ils demandent la libération d'une cinquantaine de prisonniers palestiniens en échange de la vie sauve des passagers. L'Ouganda est alors dirigé d'une main de fer par un despote sanguinaire autoproclamé maréchal président, Idi Amin Dada. Pour lui, cet événement est une aubaine. Il va pouvoir donner à son régime une stature internationale en s'imposant dans les négociations comme intermédiaire entre Israël et la Palestine. Amin Dada fait sortir les otages et les terroristes de l'avion et les parque dans le terminal de l'aéroport d'Entebbe. On leur sert à boire, à manger, tandis qu'Amin Dada négocie. Le surlendemain, tous les otages non-juifs sont libérés et le dictateur jubile et se vante de ses qualités de négociateur. Mais très vite, on commence à s'apercevoir qu'Amin Dada joue un double jeu. Il semble de mèche avec les terroristes tout en cherchant à gagner du temps face aux Occidentaux. Il semblerait même qu'il se soit arrangé avec le FPLP pour faire atterrir l'Airbus en Ouganda. En échange d'une publicité favorable, Amin Dada fera tout pour que la négociation tourne en faveur des revendications du FPLP. C'est pour cela qu'Israël, qui n'a aucune confiance en lui, a préparé dès le premier jour un raid secret sur l'aéroport. Dans cette nuit du 3 au 4 juillet, deux appareils de Tsahal se posent discrètement le plus loin possible du terminal, sans même avoir été repérés par le contrôle aérien. Deux Land Rover et une Mercedes noire sont débarqués. En effet, Amin Dada rend à tout moment visite aux otages dans des véhicules de ce type depuis des jours. Lorsque les voitures transportant le commando israélien arrivent, tout le monde est dupé. Les militaires chargent l'entrée du terminal et tuent les preneurs d'otages. Ils font ensuite évacuer les otages vers leurs avions, mais l'armée ougandaise ouvre le feu sur eux. S'ensuit alors une bataille féroce qui tourne très mal pour les Ougandais. Les Israéliens détruisent tous les avions militaires au sol et tuent une quarantaine de soldats. Ils poussent les otages dans les avions et décampent sans être inquiétés. L'aéroport est complètement détruit. Ils ne compteront qu'un seul mort dans leur rang, un certain Yonatan Netanyahu, le frère du futur premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Côté otages, les Palestiniens en abattront un lors de l'assaut et deux autres sont tués par erreur par l'armée israélienne. Mais malgré ça, pour Israël, c'est un succès de propagande éclatant. Pour l'Ouganda, en revanche, c'est une gifle en plein visage. Humilié, Amin Dada tente de faire condamner cette attaque violant les lois internationales sur la souveraineté territoriale, mais Amin Dada a déjà perdu la bataille de l'opinion et ne trouve que de maigres soutiens. Il sera chassé du pouvoir 3 ans plus tard et se réfugiera en Arabie Saoudite où il mourra le 20 juillet 2003.
Don't fear the reaper.
Vous écoutez Classics Time Machine sur Radio Centrafrique et vous entendiez à l'instant le groupe de heavy metal new-yorkais Blue Oyster Cult qui, en 1976, scorait son plus grand succès avec Don't Fear the Reaper.
L'Algérie vient de vivre sa première semaine d'indépendance sous le drapeau vert et blanc. Elle l'a vécu différemment selon le lieu et le jour, mais partout au milieu des manifestations de joie de la population musulmane. C'est ainsi qu'Alger avait accueilli, accompagné par une escorte improvisée de motocyclettes, le président Ben Reda et les membres du GPRA. Accueil triomphal des musulmans malgré l'absence de Ben Bella. Belkacem Krim n'avait pas réussi à le convaincre de revenir du Caire avec lui et la crise restait ouverte. L'explosion de joie n'en fut cependant pas amoindrie pour autant. Et du balcon de la préfecture d'Alger, le président du GPRA put prendre la mesure de sa popularité auprès d'une foule qu'il rencontrait pour la première fois.
Le 1er juillet 1962, après 132 ans de colonisation française et après une guerre qui durera plus de 7 ans et fera 30 000 morts côté français et plus de 250 000 morts côté indépendantiste, les Algériens peuvent enfin voter pour choisir ou non leur indépendance. Sans surprise, le oui l'emporte avec 99,9% et le 3 juillet 1962, le général de Gaulle est obligé à son tour de reconnaître au nom de la France l'indépendance chèrement gagnée de la République d'Algérie. Quelques mois auparavant, le 19 mars 1962, un cessez-le-feu entre les forces françaises et les indépendantistes marquait le début des négociations à Évian en France. Durant 7 ans, la France fit tout son possible pour réprimer le mouvement indépendantiste et jeta dans une guerre qui ne disait pas son nom plus de 1,5 million de soldats. Commencée en 1954, la guerre tourne vite à la guérilla et les embuscades et attentats contre les soldats français, leur soutien ou leurs intérêts furent répondus par des raids de représailles, la torture et des exécutions sommaires. Mais au bout de 7 ans, la détermination des indépendantistes est restée tout entière et la France ne peut plus tenir sa position. En effet, l'opinion est lassée et dégoûtée de cette guerre sale que les journaux relatent jour après jour sous le vocable de « événement d'Algérie ». La situation devient catastrophique pour la France, le coût économique est gigantesque et sur le plan diplomatique, elle perd un à un ses soutiens sur la question algérienne. Constatant l'échec militaire et diplomatique de la guerre, la France signe un cessez-le-feu qui marque déjà le début de l'indépendance d'Algérie, mais les plaies laissées par la barbarie et l'acharnement de l'armée française, et les raids vengeurs et les purges internes et les divisions du côté algérien envenimeront durablement les relations entre les deux pays. droit sorti de 1962, ce morceau rocky et bluesy qui fait du bien, Green Onions par le groupe américain Booker T and the MGs sur Classics Time Machine sur Radio Saint-Afrique.
Tu sais que t'en deviendrais presque désirable.
Enlève ta main.
Quelle main?
Enlève ta main, vieux pédé.
Y a pas de honte.
C'est pas une question de honte, une question d'envie. Moi justement j'ai pas envie.
Mais t'en sais rien. Un truc que tu connais pas, tu peux pas savoir si t'en as envie ou pas.
Tu crois quand même pas que je vais m'exciter pour ta gueule, non? Moi, ce qu'il me faut, c'est une bonne femme. Tu piges? Quelque chose qui m'attire. Et non pas qui me repousse. Non!
Je suis humilié. Mais non, t'es pas humilié. Entre copains, c'est normal. D'abord, j'en ai marre de ce bled. Bled de merde! France de merde! Partout où je vais, je me fais enculer!
La mort de l'acteur Patrick Devers cet après-midi à Paris, il s'agirait d'un suicide. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est un homme en pleine gloire, en pleine jeunesse et en pleine ascension qui a été découvert inanimé cet après-midi à son domicile à Paris. Patrick Devers, 35 ans, a été réclamé par tous les réalisateurs. Il devait tourner d'ailleurs un nouveau film avec Claude Lelouch dès lundi. C'est la raison pour laquelle on a eu du mal à imaginer qu'il se soit vraiment suicidé, comme tout semble le prouver, et d'abord la présence d'un fusil à ses côtés. C'est son domestique qui a découvert son corps en début d'après-midi et a alerté une voisine. Chez tous ses proches, donc, la stupéfaction et une immense tristesse, Patrick Devers était en train de devenir l'un des très grands de ce métier.
C'est ça la bombe, ouais, ouais. Barre-toi, ouais, ouais. Va te faire tringler chez les flics, salope!
Parfait, hein! Comme ça, je garde tout pour moi, hein! T'en verras pas un rond du fric de la vieille! Pas un rond, t'entends? Pas un rond! D'ailleurs, tu t'en fous du fric, toi! Tu planes, toi! Mais pourquoi tu t'en fous du fric? T'es bien qu'une petite pute! C'est à cause du fric que t'es venu me chercher! Non! C'est ça que tu voulais, non? C'est ça qui t'excite, non? Mais dis-le! Dis-le qu'il y a que ça qui t'excite, hein! C'est quand même pas moi! Qu'est-ce que t'en as branlé d'un connard comme moi? Connard!
C'est le 16 juillet 1982 que meurt à Paris l'acteur Patrick Bourdeau, plus connu sous son nom d'artiste Patrick Devers. Il a 35 ans et, après des débuts de carrière difficiles, est enfin parvenu à se faire un nom parmi les plus grands acteurs français de l'époque. Devers est un acteur phénoménal qui, par sa sincérité de jeu, alors qu'il incarne souvent des rôles complexes, se hisse petit à petit sur le devant de la scène. Acteur depuis son enfance, il faudra attendre son rôle de Pierrot dans le film à scandale de Bertrand Blier, Les Valseuses de 1973, dont on entend ici la musique, pour que le public le découvre vraiment, alors qu'il donne la réplique au tout aussi talentueux et jeune Gérard Depardieu et Miu Miu, qui est à l'époque sa compagne. Mais le film lui colle sur le dos une image sulfureuse de mauvais garçon et Patrick Devers n'est à vrai dire pas vraiment un ange. Sa vie personnelle tumultueuse, il sera marié deux fois après sa relation avec Miu Miu et aura deux filles de ses unions, ses problèmes de drogue et ses conflits avec de nombreuses personnalités du showbiz minent sa carrière et l'acteur passe par de grands moments de doute et de dépression. Quand sa carrière décolle enfin à la toute fin des années 70, ses problèmes vont crescendo. Fatigue, stress, le sentiment de n'être entouré que par des gens intéressés par son succès et son argent, son dégoût des médias qui étale sa vie privée et une addiction croissante pour les drogues dures finissent d'enfoncer le clou. Lorsque sa seconde épouse le quitte pour Coluche et menace de ne plus lui laisser voir sa fille, il rentre chez lui, il prend une carabine et se tire une balle dans la bouche. Cette carabine lui avait été offerte quelques années auparavant par Coluche lui-même. À 35 ans, il laisse derrière lui 37 longs métrages dont certains absolument sublimes tels que Coup de tête de Jean-Jacques Hano ou encore Série noire d'Alain Corneau, dont on a entendu l'extrait, considéré comme son plus grand rôle. Patrick Devers emporte avec lui cette image d'un homme écorché vif et sensible qu'il était aussi bien en tant qu'acteur qu'en tant qu'homme dans la vraie vie.
Are you a doctor?
I'm a doctor.
I'm a doctor.
I'm a doctor.
I'm a doctor.
You can tell me I'm a doctor.
Alors pour illustrer musicalement cette année 1982, j'ai choisi le morceau The Message par le groupe pionnier du hip-hop new-yorkais Grandmaster Flash and the Furious Five. C'est tout simplement LE titre qui contribua à populariser le rap alors tout jeune et relativement inconnu du grand public. The Message est en fait une complainte sur la violence et le climat social pourri des quartiers noirs des grandes villes américaines où règnent la criminalité, la drogue, la violence et les injustices sociales. Il faut dire aussi qu'il y avait de quoi en faire une chanson, car les années 82 et 83 sont statistiquement aux USA les années les plus violentes de leur histoire, et les quartiers pauvres tels que le Bronx ou Harlem à New York se transforment réellement en jungle urbaine. Grandmaster Flash décrit au long du titre les conditions de vie déplorables du quartier, les odeurs de pisse dans les escaliers, les junkies armés en bas de chez lui, les rats et les cafards à tous les étages, et esquisse l'évolution du parcours social d'un gamin de la rue, passant par le vol et la drogue, et bien sûr par la case prison, et l'absence totale d'opportunités sociales et économiques pour ceux qui chercheraient une vie meilleure. Bref, un témoignage poignant sur les quartiers, et si vous demandez mon avis, The Message a complètement vampirisé le sujet, tellement ce morceau est excellent et complet, et toutes les tentatives ultérieures sur le même thème que les rappeurs nous ressortent depuis 30 ans me semblent bien pâle à côté. En 1982 donc, Grandmaster Flash and the Furious Five, The Message, sur Classics Time Machine. Ah, 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 ah.
Makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. Broken glass everywhere. People pissing on the stage. You know they just don't care. I can't take the smell. Can't take the noise. Got no money to move out. I guess I got no choice. Rats in the front room. Roaches in the back. Junkies in the alley with the baseball bat. I tried to get away, but I couldn't get far, 'cause a man with a tow truck repossessed my car. Don't push me, 'cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. Standing on the front stoop, hanging out the window, watching all the cars go by, roaring as the breezes blow. A crazy lady living in a bag, eating out of garbage pails, used to be a fag hag. Such a dance to tango, skipped the life and dango. A zircon princess seemed to lost her senses. Down at the peep show, watching all the creeps, so she could tell her stories to the girls back home. She went to the city and got so did it. She had to get a pimp, she couldn't make it on her own. Don't push me, 'cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. My brother's doing fast on my mother's TV. Says she watches too much, it's just not healthy. All my children in the daytime, Dallas at night. Can't even see the game or the Sugar Ray fight. The bill collectors, they ring my phone and scare my wife when I'm not home. Got a bum education, double-digit inflation. Can't take the train to the job, there's a strike at the station. Neon King Kong standing on my back, can't stop to turn around. Broke my sacroiliac, a mid-range migraine, cancer membrane. Sometimes I think I'm going insane, I swear I might hijack a plane. Don't push me, 'cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. My son said, Daddy, I don't wanna go to school, 'cause the teacher's a jerk. He must think I'm a fool, and all the kids smoke reefer. I think it'd be cheaper if I just got a job, learn to be a street sweeper. I dance to the beat, shuffle my feet, wear a shirt and tie, and run with the creeps. 'Cause it's all about money, ain't a damn thing funny. You got to have a con in this land of milk and honey. They pushed that girl in front of the train, took her to the doctor, sewed her arm on the game. Stabbed that man right in his heart, gave him a transplant for a brand new start. I can't walk through the park, 'cause it's crazy after dark. Keep my hand on my gun, 'cause they got me on the run. I feel like an outlaw, broke my last glass jaw. Hear them say, you want some more? Living on a seesaw. Don't push me, 'cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. Say what? It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under.
It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under.
Seconds and counting. T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11.
Clear.
Here we got a roll program.
Neil Armstrong reporting the roll and pitch program, which puts Apollo 11 on a proper heading.
11, Houston, if that's not the Earth, we're in trouble.
Roger, Eagle, I'm gone.
Roger, how does it look?
The Eagle has wings.
Plus 30 seconds.
Houston, you're go for landing, over.
Roger, understand, go for landing.
30 feet, 2.5 down. We're drifting to the right level. 30 seconds.
Oh, jeez.
Tranquility Base here. The Eagle has landed.
We're home. Man on the moon.
I'm at the foot of the ladder.
Armstrong is on the moon. Neil Armstrong, 38-year-old American, standing on the surface of the moon.
2 miles.
On this July 20th, 1969.
That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Et oui, je sais, encore une archive sur l'exploration spatiale, ça devient une manie sur Classics Time Machine, mais là, je ne pouvais pas passer à côté car le 16 juillet 1969 décolle depuis la Floride la fusée Saturn V, emmenant à son bord la mission Apollo 11 qui, pour la première fois de l'histoire de l'humanité, allait poser deux hommes sur la surface de la Lune. À bord de la capsule, trois hommes, le pilote de module de commande Michael Collins, qui ne marchera pas sur la Lune mais restera en orbite pour récupérer ses collègues, Buzz Aldrin, le pilote de module d'exploration lunaire, le fameux LEM, et le chef de mission et premier homme à fouler le sol lunaire, Neil Armstrong. Après 4 jours de vol spatial, la capsule se met en orbite autour de la Lune, Aldrin et Armstrong montent à bord du LEM et entament la descente. Le LEM se pose délicatement le 20 juillet 1969 et les deux hommes se préparent à effectuer leur unique sortie extramodulaire qui durera 2h30. C'est là que Neil Armstrong prononcera sa phrase célébrissime « C'est un petit pas pour l'homme, mais un bond géant pour l'humanité ». L'événement est retransmis en direct sur les télés du monde entier. Ils chargeront 27 kg de roches lunaires à bord du LEM et passeront au total 21 heures sur la surface, la plupart du temps à l'intérieur du module, avant de repartir et de coupler une partie du LEM à la capsule où les attend Collins. L'autre partie du LEM est restée depuis ce jour sur la Lune. Ils rejoindront ensemble la Terre et amerreront sans encombre après une mission qui aura duré au total 195 heures. Ils sont triomphalement accueillis au pays, mais il faut savoir que la portée scientifique de cet exploit reste limitée et que c'est surtout sur le plan idéologique que cette mission avait son importance, à savoir poser un homme américain sur la Lune avant que les Russes posent un homme russe sur la Lune, car jusque-là, ils régnaient en maître sur la conquête spatiale, contexte de guerre froide oblige. Alors, il y a des ozos là dehors qui vous affirmeront que blablabla, l'homme est jamais allé sur la Lune, c'est Stanley Kubrick qui a réalisé des images en studio parce qu'il avait que ça à faire, et là je vais même pas en parler parce qu'on entend dans la vie déjà assez de conneries comme ça, et on va pas en rajouter. Classics Time Machine, c'est une émission de gens culturés, voilà, et vive la science, bordel.
Drink it.
un titre formidable du mythique groupe britannique The Rolling Stones, Honky Tonk Women, qui n'est pas sorti sur un album, mais en tant que single le 4 juillet 1969, soit trois jours après la mort tragique du membre du groupe Brian Jones. Vous écoutez Radio Saint-Afrique, le Dr M est au micro et au volant de la Classic Time Machine, tout va bien.
D'abord et avant tout, bien sûr, l'aggravation inquiétante de la situation en Bosnie, alors que le Conseil de l'OTAN, réuni aujourd'hui à Bruxelles, s'est borné à condamner fermement la prise de l'enclave musulmane de Srebrenica par les milices serbes bosniaques. Radovan Karadžić, leur chef, a exclu tout retrait de ses forces. Au contraire, les Serbes semblent préparer une nouvelle épuration ethnique parmi les milliers et les milliers de réfugiés désormais sous leur contrôle. En tout cas, sur place, les dirigeants des milices serbes poursuivent méthodiquement ce que le porte-parole du Haut Commissariat aux réfugiés a qualifié de l'un des plus grands nettoyages ethniques dans l'histoire de cette triste guerre.
Ceux-là sont sauvés, provisoirement du moins. On les a parqués dans des hangars bétonnés près de l'aéroport de Tuzla. Sur leur visage, l'angoisse, la fatigue, la peine, même pas une esquisse de soulagement d'être encore en vie. Il n'y a que des femmes et des enfants et des vieillards. Les Serbes les ont fait sortir des autocars quelques centaines de mètres plus tôt et leur ont dit « Partez, c'est cela, la purification ethnique. » Mais vous ne verrez pas les déchirements des familles qu'on sépare, ni l'argent que les soldats serbes exigent avant de les laisser partir, ni les hommes de plus de 16 ans que l'on emmène dans un stade pour les interroger. Ceux qui sont soupçonnés d'avoir porté une arme sont considérés comme des criminels de guerre par les Serbes. Certains seront échangés contre des prisonniers, d'autres ne reviendront pas. On ne saura jamais combien. Il n'y avait pas de recensement à Srebrenica.
En Bosnie, le 13 juillet 1995, après plusieurs années de siège par les forces serbes et les miliciens des Serbes de Bosnie, la ville de Srebrenica, près de la frontière de Serbie, à majorité musulmane et bosniaque, est investie par les assiégeurs. Durant les précédentes années, les forces serbes procèdent méthodiquement à l'invasion et à la destruction des villages musulmans autour de la ville, perpétrant systématiquement des meurtres et des viols, menant ainsi de fait une politique d'épuration ethnique jamais vue depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale en Europe. L'ONU tente en vain de s'interposer entre les deux parties pour protéger les populations et acheminer des vivres, mais les forces serbes empêchent tout convoi de pénétrer la ville. La situation semble désespérée et la veille du 13 juillet, après trois ans de siège, il ne fait plus aucun doute que Srebrenica va tomber. Dans la nuit, ceux qui le peuvent, encore, fuient la ville par tous les moyens, souvent pourchassés par des groupes de soldats. Mais on estime qu'environ 25 000 civils sont toujours coincés entre ce qui reste des murs de la ville. Totalement impuissants, les casques bleus néerlandais assistent à l'entrée des troupes serbes dans la ville et très vite, ces derniers commencent à séparer les femmes et les enfants des hommes. Tous les hommes entre 16 et 65 ans sont emmenés et enfermés dans un hangar de la ville, ils sont environ 7000. Personne ne les reverra jamais vivants. Les femmes, les vieillards et les enfants sont parqués dans des autobus pour être évacués. On leur promet, devant les caméras, qu'aucun mal ne leur sera fait. En réalité, une fois les caméras rangées, de nombreux bus dans lesquels les soldats ont fait monter des centaines de femmes entre 14 et 50 ans sont emmenés en forêt et les soldats perpètrent alors un viol de masse et abattent ensuite la plupart d'entre elles. Dès le lendemain, des fosses communes sont creusées et on y enterre à la va-vite 8372 corps. L'opération de nettoyage ethnique sur Srebrenica est alors terminée. Quand les années passèrent et que finit la guerre, le tribunal pénal international de La Haye n'a eu de cesse de traquer les responsables. Tout d'abord, il est reproché aux casques bleus néerlandais de ne pas avoir empêché le tri et la séparation des hommes et des femmes civiles de la ville. En 2017, les Pays-Bas seront condamnés et jugés partiellement responsables du massacre par non-assistance à personne en danger. Mais la responsabilité principale de ce génocide est clairement établie auprès des milices des Serbes de Bosnie et des forces militaires de Serbie, en particulier leurs chefs respectifs, Radovan Karadžić et le général Ratko Mladić. Malgré un mandat d'arrêt international, ils réussiront à se cacher pendant près de 15 ans, bénéficiant du soutien et de la sympathie de nombreux Serbes. Ils seront tous les deux, ainsi que nombre de leurs lieutenants, condamnés à l'emprisonnement à perpétuité. Aujourd'hui, alors que la justice semble avoir été rendue, la plupart des auteurs du génocide, les simples soldats ou petits chefs de l'époque, continuent de vivre tranquillement leur vie, sans être à ce jour encore inquiétés par la justice.
Classic Time Machine, les Saint-Africains parlent au français.
Bon, et c'est pas joyeux tout ça, mais c'est l'histoire, hélas, et c'est aussi à ça que l'histoire sert, se rappeler des horreurs du passé dans l'espoir d'éviter à l'avenir de commettre les mêmes erreurs. Alors pour décompresser un peu, on va passer un peu de musique. Et en 1995, justement, le groupe de Chicago, de Smashing Pumpkins, avec à sa tête l'étrange chanteur et guitariste Billy Corgan, sortait un double album qui est rentré dans le panthéon du rock des années 90, Melancholy and the Infinite Sadness. Un album extrêmement varié et assez singulier, voire étrange, mêlant des mélodies rock avec des mélodies parfois tirant vers le métal et parfois ressemblant à des comptines pour enfants dans une ambiance à la Tim Burton, inquiétante et merveilleuse à la fois. Sur cet album, il y a un titre qui m'a complètement renversé à l'époque, jeune adolescent que j'étais, et qui vraiment m'a fait découvrir le rock alternatif. Je parle du morceau 1979, où Corgan passe en revue avec nostalgie les bonheurs et malheurs de son adolescence, ses espoirs vains et ses moments de doute. C'est reparti donc, en 1995, j'ai 15 ans, j'allume ma radio et je tombe sur 1979 des Smashing Pumpkins, et là le temps s'arrête, ça sert aussi à ça, Classic Time Machine.
Like white rider, right. Madame, monsieur, bonsoir. Les jurés de Lyon devaient répondre à 341 questions. Ils ont répondu oui à 340 de ces questions, reconnaissant Klaus Barbie coupable de 17 crimes contre l'humanité. Ils ont répondu non à la dernière question, pas de circonstances atténuantes pour l'accusé. Il était 1h20 la nuit dernière lorsque Klaus Barbie apprenait ainsi du président Serdini qu'il était condamné à la réclusion à perpétuité. C'était la fin d'un procès de 52 jours, un procès évidemment historique qui se concluait sur une journée très lourde.
Je vous demande qu'Avie Barbie soit reclus. Les 9 jurés de la cour d'assises du Rhône et les 3 magistrats professionnels ont suivi les réquisitions du procureur général. Aucune circonstance atténuante n'ont été retenues. Barbie finira donc ses jours en prison. Ainsi en a décidé hier soir le jury populaire après 6h30 de délibérer.
Je trouve que on vient de rendre la justice et que Barbie a bien mérité sa condamnation à perpétuité. J'ai beaucoup d'amertume parce qu'il nous a fallu attendre 42 ans pour que cette justice soit rendue. En même temps, un soulagement, oui, parce que j'ai vu dans la salle Madame Hélène Bonner, cette maman de 83 ans passée, qui a perdu des enfants à Izieux. Je pense que maintenant, elle peut s'en aller tranquille.
On avait déjà abordé dans le numéro de janvier de Classics Time Machine cette année l'arrestation et l'exfiltration depuis la Bolivie en 1983 du criminel nazi Klaus Barbie vers la France. Et comme promis alors, nous allons aborder ici la deuxième et dernière partie de cet événement lorsque le 4 juillet 1987 s'achève son procès pour crime contre l'humanité à la cour d'assises de Lyon. Commencé au mois de mai 1987, celui-ci dure 9 semaines et aboutit sur une condamnation à perpétuité pour le meurtre et la torture en 1943 du chef du Conseil national de la Résistance, le préfet d'Eure-et-Loir Jean Moulin, alors âgé de 44 ans. On lui reproche également 17 autres crimes commis alors qu'il était à la tête de la Sicherheitspolizei, la police de sûreté allemande, chargée de traquer juifs, résistants et opposants dans le secteur de Lyon. Barbie est un officier zélé et farouchement endoctriné, un nazi pur et dur qui ne recule devant aucun crime pour accomplir sa tâche. Ainsi donc, parmi ces 17 autres accusations, la plus marquante a été de devoir répondre de l'arrestation le 6 avril 1944 de 44 enfants juifs et des 7 adultes qui les cachaient dans une maison pour enfants d'Izieux dans l'Ain pour les déporter vers le camp d'extermination d'Auschwitz en Pologne. Aucun d'entre eux n'en reviendra vivant. Après la guerre, Barbie s'est caché pendant près de 40 ans en Bolivie, où la dictature militaire lui offrit protection et anonymat en échange de ses services et son expérience dans la répression des opposants au régime. Lorsque le régime militaire tombe, Barbie perd ses soutiens et est livré après plusieurs demandes express à la France, grâce notamment au couple de chasseurs de nazis Beate et Serge Klarsfeld. Jugé derrière une vitre blindée, Barbie, se prétend vieux et fatigué, n'a plus très bonne mémoire. Bref, comme tous les criminels fascistes confrontés à leurs actes, il minimise sa responsabilité alors qu'il fut sous l'uniforme SS bien plus sûr de lui et volontariste. Sans surprise, le verdict tombe ce 4 juillet 1987. Perpétuité assortie d'une peine incompressible de 30 ans pour crime contre l'humanité. C'est la première fois que ce chef d'inculpation est retenu par une cour d'assises en France. Klaus Barbie meurt 4 ans plus tard d'un cancer de la prostate à la prison Saint-Joseph de Lyon, le 22 septembre 1991, à l'âge de 77 ans. En 1987, les adolescentes qui aimaient les bandanas, les mitaines en cuir, la bière et les tatouages sont devenues folles lorsque ce titre fit découvrir à la France entière le groupe américain Guns N' Roses, avec leur chanteur Axl Rose et leur guitariste le plus célèbre des années 90, Slash. C'était Sweet Child of Mine sur Classics Time Machine.
L'attentat contre un bateau de l'organisation écologiste Greenpeace. Cela s'est passé en Nouvelle-Zélande. Une bombe a fait sauter le chalutier de Greenpeace. Il y a un mort parmi l'équipage. Le bateau devait participer à un mouvement de protestation contre les essais nucléaires français dans le Pacifique Sud. La campagne de protestation a aussitôt été annulée.
Le Rainbow Warrior a coulé très vite. Un trou de plus de 2 mètres de diamètre a été découvert par les hommes grenouilles de la police néo-zélandaise. La police qui pense qu'il s'agit bien d'un attentat, l'engin explosif aurait été placé dans la salle des machines. Hypothèse confirmée par le Premier ministre néo-zélandais qui a reconnu toutefois n'avoir aucune preuve. Les militants de Greenpeace qui viennent donc de perdre l'un des leurs sont très perplexes.
Qui pourrait nous en vouloir à ce point-là, dans les mesures où on est maintenant quasiment sûr que ce soit un attentat? Ça, on ne peut pas savoir. Pour l'instant, on n'en sait rien
du tout. On n'a pas eu de menace.
On n'a pas eu de menace, ou bien en France, ou bien dans d'autres pays.
Dans le port d'Auckland, en Nouvelle-Zélande, le Rainbow Warrior, navire de l'organisation écologiste Greenpeace, se prépare le 10 juillet 1985 à prendre la mer. Son objectif est l'atoll polynésien français de Mururoa, où la France conduit depuis des décennies des essais nucléaires. Greenpeace veut fédérer une flottille de petites embarcations pour pénétrer dans l'atoll et ainsi empêcher la détonation de la bombe nucléaire que les Français veulent tester. Seulement, à 23h48, alors que l'équipage est à bord, une mine magnétique collée sur la coque du bateau explose. Elle a été placée par un commando des services secrets français, la DGSE, et est de faible puissance. Elle troue la coque, mais laisse le temps à l'équipage d'évacuer le bateau. La deuxième mine que les commandos ont placée est programmée 5 minutes plus tard et est beaucoup plus lourde. Elle a pour but de couler définitivement le navire. Mais manque de bol, le photographe de l'organisation veut à tout prix récupérer son matériel coûteux et la deuxième charge explose alors qu'il est encore à bord. Il sera tué sur le coup. Sur le port, le vigile entend les explosions et remarque une petite fourgonnette qui attend dans l'obscurité et prend la fuite avec des hommes à son bord. Dans un réflexe, il a le temps de noter le numéro d'immatriculation et le transmet à la police qui n'a aucun mal à identifier les auteurs. Il s'agit de 3 Français voyageant avec de faux passeports suisses. Ils sont arrêtés à l'aéroport d'Auckland dès le lendemain matin. L'un d'entre eux est le frère de Ségolène Royal, Gérard Royal. Ils se prétendent touristes et contestent leur implication, mais ils commettent une grave erreur. L'un d'eux émet un appel téléphonique vers un numéro secret de la DGSE alors qu'il est sur écoute. Les autorités néo-zélandaises sont à présent sûres et certaines de l'implication des services secrets français dans l'attentat. Il en découle une crise diplomatique majeure entre les deux pays. Et l'affaire devient un véritable scandale international. C'est le journaliste Edoui Plenel qui parvient à exfiltrer des documents à charge et les publie, révélant que l'attentat a été commandité par le ministre de la Défense Charles Hernu avec l'aval du président François Mitterrand. La situation tournant à l'affaire d'État, le Premier ministre Laurent Fabius et le ministre de l'Intérieur Pierre Joxe lâchent Hernu et le chef de la DGSE qui sont contraints à la démission. Mais les dégâts sont déjà terribles pour l'image de la France. Le coulage du Rainbow Warrior est en effet une violation de la souveraineté nationale néo-zélandaise et le boycott des produits français par certains pays et par nombre de consommateurs dans le monde, outrés par l'attitude française, ont de lourdes répercussions économiques. Néanmoins, le gouvernement et le président parviennent à sauver leur tête. Et la France ne reconnaîtra sa responsabilité d'ailleurs au plus haut niveau de l'État que bien des années plus tard. 1985, l'inévitable tube du groupe norvégien A-ha qui signa avec ce titre Take On Me l'un des plus gros succès pop des années 80. Allez, avouez que vous avez essayé de chanter en atteignant les aigus, je vous ai entendu jusque dans le studio. Bon, eh bien, retour vers le présent, 2018, c'est ainsi que s'achève cette émission. Merci d'avoir été avec nous, on se donne rendez-vous le mois prochain, le mercredi 22 août à 20h, en direct des studios de Radio Saint-Af pour un nouveau numéro de Classics Time Machine. Comme toujours, un grand merci à Clément, notre technicien torse nu, pour la production de cet épisode. Et pour le reste, merci à moi, le Dr M, pour la réalisation, le montage, la rédaction et la programmation de ce Classics Time Machine de juillet 2018. Passez tous un très bel été et en attendant un prochain numéro, vous pouvez podcaster notre émission en allant sur le site www.radiosaintafrique.com. D'ici là, chers auditeurs, comme d'habitude, au revoir à tous et restez classe.
Who is that? I'm the doctor.
No, you may be a doctor, but I am the doctor. The original, you might say.
I'll be back.